Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Vous est-il déjà venu à l'idée d'écrire au Président ? Et si cela devait arriver un jour, que lui écririez-vous et pourquoi ? Prendre pour objet d'enquête sociologique ces milliers de lettres envoyées chaque jour aux locataires de l'Élysée, c'est le sujet du livre que notre invité est venu nous présenter au micro aujourd'hui. Bonjour Michel Auferlet.
Bonjour.
Michel Auferlet, vous êtes professeur émérite de sociologie du politique à l'ENS Ulm à Paris. Vous venez de faire paraître avec Julien Fretel, qui est lui professeur de sciences politiques à Paris Panthéon-Sorbonne, l'ouvrage intitulé « Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée ». Le livre est paru aux éditions La Découverte en ce mois de novembre 2021. Et par chance pour nous, il se trouve que vous avez une résidence secondaire ici à Diolfi et qu'une présentation de votre livre en votre présence est prévue en cette fin de novembre à la librairie Souegambade. Alors à Radiola, on a évidemment sauté sur l'occasion. D'autant que l'enquête sociologique que vous nous proposez là sur ces Français qui écrivent au président nous a interpellés. On peut même dire d'ailleurs que c'est une enquête inédite ou pas, monsieur Auferlet ?
Pour la France, oui. Enfin, je veux dire, il y a eu des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis, il y a eu des enquêtes en Argentine, il y a également eu une enquête en Italie. Pour la France, il y a eu, il y a 7 ou 8 ans, un ouvrage d'une journaliste qui a compilé un certain nombre de lettres, mais qui n'avait pas du tout, si vous voulez, vocation à véritablement mettre à plat ce dispositif. Et puis, il y a eu un article d'une collègue qui remonte maintenant à 25 ans, qui avait travaillé sur le courrier sous François Mitterrand. Bon, mais en tous les cas, on commence à s'intéresser justement au courrier. Bon, c'est pour ça que... On a parlé de guichet, parce qu'on peut écrire à beaucoup de gens, hein, on peut beaucoup écrire à beaucoup d'administrations, et le courrier des députés a déjà fait l'objet d'articles, mais le courrier du président n'a jamais été, si vous voulez, investigué, surtout sur une assez longue période, comme nous avons tenté de le faire, justement.
Et qu'est-ce qui pourrait l'expliquer, selon vous, ce manque d'intérêt, d'attention ?
D'une part, c'est peut-être l'accès au terrain, parce que, d'une part, c'est très confidentiel. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la vie de centaines de milliers de Français, donc nous avons dû signer une clause de confidentialité. Et donc c'est un sujet assez sensible. Et puis en deuxième lieu, c'est aussi, si vous voulez, d'une certaine manière, un sujet qui n'a pas forcément intéressé, parce qu'on s'intéresse plutôt au président par le haut, si vous voulez. Je pense qu'on va parler de présidentialisation. Mmh. Et là, en quelque sorte, c'est d'essayer de voir aussi dans ce livre, à travers le courrier, quel est le rapport donc des Français, on verra lesquels, là, au président de la République, à l'institution présidentielle, d'une part, à la présidence de la République et également à tel ou tel président en particulier.
Donc justement, oui, à travers votre travail, vous avez à la fois cherché à étudier donc ces lettres, hein, c'était votre premier objet de recherche, d'étude, et ce que vous avez cherché à mettre en avant, c'était la manière dont elles sont écrites, et donc ce que cela peut dire de leurs émetteurs, ou plutôt leur réception vis-à-vis de l'Élysée et la façon dont elles sont traitées par...
Je pense que ça a été les deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au départ... On a eu l'autorisation, disons, je pense, en novembre 2016, et pouvoir voir, lire, manipuler, justement, donc le courrier en début 2017, pendant 3 mois, s'il vous plaît. Hein, bon. Et donc, la question qui se posait, c'était que faire de ce matériau. Bon. Et bien entendu, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas simplement parler des gens qui écrivaient, mais sans parler d'une part de la manière dont ce courrier était reçu au sens premier du terme, c'est-à-dire était réceptionné, et était également donc lu, et ensuite mis dans des catégories, et ensuite s'interroger également sur la manière dont le chef de service, mais aussi le président, puisque le chef de service quasiment change à chaque président, si vous voulez, utilisait le courrier. Donc ça a été possible après, parce qu'on a prolongé l'enquête, c'est-à-dire que même si le noyau du livre, c'est plutôt la présidence Hollande, on l'a prolongé au-delà et en deçà.
Donc, c'est-à-dire à la fois sous le mandat de Nicolas Sarkozy et également début de quinquennat d'Emmanuel Macron.
Alors, effectivement, Nicolas Sarkozy et puis Emmanuel Macron. Voilà. Et puis, dernier point, on a également pu prendre contact avec donc, l'ancien chef de service sous Mitterrand, qui a mis à notre disposition justement donc ses archives personnelles qui étaient très riches, et ce qui a permis de là aussi de faire une espèce de comparaison à 40 ans de distance sur ce que faisait un chef de service. Alors lui était bien placé pour le dire, puisque il est resté pendant 10 ans à la tête du service, si vous voulez. Bon.
Donc ce fameux service dont vous parlez, on va le présenter, hein, puisque ce terrain de recherche que vous avez choisi avec Julien Fretel, c'est donc ces lettres envoyées au président. Donc tout citoyen a la possibilité de s'adresser à son président, et ce depuis 1959, c'est l'année où a été créé en fait ce service de correspondance, comme vous l'avancez dans le livre. Ce service, il prend véritablement de l'ampleur qu'au cours des années 70, c'est également une précision que vous amenez. L'adresse de l'Élysée figure d'ailleurs en couverture du livre que vous venez
vous
de faire paraître.
Vous pouvez écrire, hein, n'hésitez pas, écrivez. Il y a peut-être récemment, j'ai pas pu faire de recherche systématique. J'ai pas vu Dieulfitois qui est écrit, mais comme on a bien entendu,
vous n'avez pas eu accès à l'ensemble.
On a eu accès à l'ensemble du courrier, mais enfin, on n'a pas lu l'ensemble du courrier par définition,
c'est ça,
puisque on y serait resté vraisemblablement jusqu'en 2025, si vous voulez.
Donc la fameuse adresse, c'est le 55 du Faubourg Saint-Honoré. Donc là, c'est l'adresse du Palais de l'Élysée, voilà. Mais en revanche, ces lettres n'arrivent pas directement au Palais de l'Élysée, elles passent par un intermédiaire qui, lui, est situé au 11 quai Branly, et qui est en fait l'adresse du Palais de l'Alma, où se situe le fameux service de correspondance présidentielle, qui a été rebaptisé depuis 2020 en tant que service de la communication directe. Et donc c'est là que vous avez mené votre enquête, vous avez pu pénétrer ces fameux services. Combien de personnes, en fait, travaillent au sein de ce service ?
Alors, ça varie selon les présidences. Disons qu'à partir du moment, à partir de Giscard d'Estaing, ça prend son ampleur. Et donc, c'est entre 70 et 100 personnes. Ça doit culminer, je pense, effectivement, à un moment à 100 personnes. Alors, avec, si vous voulez, donc, c'est des fonctionnaires qui sont mis à disposition des différents ministères, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas, notamment, par exemple, dans les bottins administratifs. C'est un service qui est, donc, constitué de personnel extérieur, donc, essentiellement, donc, de ministère de l'Intérieur, mais également ministère de l'Éducation nationale, parfois de la Culture. Donc à la fois donc un personnel donc de secrétariat et puis un personnel de rédaction. Et donc là aussi on pourra revenir sur les changements qui ont été apportés, mais enfin en gros ce sont des gens effectivement qui sont bien entendu pour la plupart d'entre eux des diplômés du supérieur, qui donc doivent être considérés comme aptes à pouvoir répondre donc à du courrier, même si on le verra je pense une large partie du courrier c'est du courrier type, c'est-à-dire que toutes les lettres sont déjà préparées à l'avance et vont être éventuellement enrichies en fonction donc de la demande particulière de la personne.
Et comme vous l'avez évoqué, hein, ce service de la correspondance présidentielle, il est renouvelé à chaque nouveau quinquennat. Mais ce n'est pas pour autant, vous le dites dans le livre, que ces personnes sont mises au service en fait, de la réélection du président. Ils ne travaillent pas forcément de manière en tant que soutien politique pour autant vis-à-vis du président. Comment, eux, ils envisagent leur fonction en fait, au sein de ce service ?
Alors, il y a plusieurs manières d'être dans ce service. Hein. Donc, d'une part, ça peut être d'abord éventuellement donc un espèce de service qui est à la fois assez satisfaisant puisque vous travaillez pour l'Élysée. Hein. Bon, simplement, vous n'êtes pas à l'Élysée. Et donc, je me souviens quand on a interviewé donc deux anciens présidents sur leur rapport au courrier. Bon, Macron ne nous a toujours pas reçus. Peut-être le fera-t-il. Bon. Mais en tous les cas, François Hollande avait préparé un petit topo pour nous dire que c'était un service important, mais que c'était un service de la souffrance, parce que souffrance des gens qui exprimaient un certain nombre de demandes, et souffrance également du personnel qui n'était pas considéré comme véritablement de l'Élysée. C'est-à-dire que le président, s'il va de temps en temps, bon, ça dépend des présidents, bon, eux ne vont pas à l'Élysée, bon, le chef de service n'est pas reçu à l'Élysée, sauf lors de la cérémonie des vœux. Et leur rapport, si vous voulez, avec le palais de l'Élysée, c'est essentiellement de pouvoir aller à la cantine de l'Élysée, qui est très bonne, on y a mangé une ou deux fois, et donc où il y a une très, très bonne pâtisserie. Bon, mais sinon, c'est un peu un espèce de service subalterne par rapport aux... Alors par rapport à ça, vous avez donc plusieurs manières d'aide. Alors c'est vrai que le chef des services a la nécessité d'être sinon donc pro-président en place, du moins de n'être pas complètement éloigné, ce qui pose d'ailleurs des problèmes. Hein, donc notamment, selon nous a parlé le chef de service sous Mitterrand, lui était au contraire donc animé, disons, d'une espèce de conscience générale de gauche, avec cette idée que c'était la première fois qu'il y avait un président socialiste qui était donc élu, et que il y avait une masse de courriers qui n'avait été quasiment pas traités par son prédécesseur, il était en train de s'en aller, etc., etc., et qu'il fallait répondre le plus vite possible à tous, et également faire en sorte que les gens soient écoutés. Bon, et donc c'était effectivement cette idée d'être à l'écoute des gens, et en tous les cas d'avoir, si vous voulez, un rapport. Alors je dirais pas compassionnel, parce que ça c'est plutôt des mots états-uniens, mais en tous les cas, un esprit de service public qui permettre éventuellement donc de répondre rapidement aux gens. Bon. Et de manière la moins dépersonnalisée possible. Je ne dis pas la plus personnalisée, parce que vu la masse de courriers, c'est extrêmement difficile. Bon. Et avec également aussi, chez d'autres, c'est parfois d'ailleurs les mêmes, un espèce de balancement avec l'idée que les gens qui font cette démarche ne doivent pas pour autant être mieux traités qu'un citoyen ordinaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de leur donner, en quelque sorte, ce que d'autres citoyens ordinaires qui n'ont pas écrit ne pourraient pas avoir puisqu'ils n'ont pas écrit.
Et justement, parlons alors de ces Français qui écrivent, qui font le pas de s'adresser à leur président. Alors, comme vous le précisez encore une fois dans votre livre, le dispositif que constitue le service de la correspondance présidentielle, il se définit à la fois à travers l'intention première relative à sa création. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une manière d'instaurer un contact avec son chef, le chef de l'État, d'instaurer peut-être une forme de proximité avec le citoyen, de la rendre possible en tout cas. Mais ça se définit aussi à travers les usages qui en sont faits. Quelles seraient les principales motivations alors de ces émetteurs de lettres que vous avez en tout cas vous pu identifier pendant votre enquête ?
Alors, je pense qu'on, je sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite, mais enfin, je pense qu'il faut passer aussi par la classification du service.
Bien sûr.
Si vous voulez.
Ah, bon, ouais. Oui, ça rejoint.
Alors, on est rentré dans ce service et on a appris progressivement que le courrier, il y avait 4 tas. Le premier tas, c'est le courrier, disons, le plus urgent. C'est les suicidaires. Alors à ce moment-là, si vous voulez, donc, on a les tampons et on voit la date et l'heure d'arrivée, et puis également la date immédiate de réponse, c'est-à-dire qu'on envoie à la gendarmerie ou éventuellement aux services sociaux. Alors ça, c'est pour dire le premier tri, c'est les suicidaires. Bon. Le deuxième tas, c'est des lettres qui sont, d'une certaine manière, pas traitables. D'une part parce qu'elles sont anonymes, d'autre part parce qu'elles sont délirantes, ou parce qu'elles sont, elles dépassent un certain niveau, comme c'est le terme du service, de véhémence.
Bon. C'est-à-dire notamment
des insultes. Bon, on en cite quelques-unes. Bon, je sais pas. Alors ça, c'est les deux premiers. Alors, sinon, si vous voulez, les catégories de classement, c'est d'abord ce qu'ils appellent les requêtes. Alors les requêtes, c'est tout ce qui est individuel. Bon, on rentrera, si vous voulez, dans les détails. Et donc, ce qui est le gros du courrier. Hein, le gros du courrier, c'est-à-dire 60, ça dépend, 55, 60, 65%. Ou, en règle générale, bon, c'est des problèmes personnels qui n'ont pas trouvé de solution ou qui sont une espèce de bouteille jetée à la mer que l'on envoie au président. Bon. Le quatrième tas, ça va être à ce moment-là donc, la rubrique « Opinion ». Alors là, où commence la requête et où finit la requête et où commence l'opinion. Et donc c'est un petit peu ça, si vous voulez, qu'on a essayé aussi d'interroger, parce que ça nous a directement parlé par rapport à la situation notamment des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est tout à fait un cas typique, si vous voulez,
de
requête-opinion,
si vous voulez,
et qui parlent en leur nom, mais qui derrière vont représenter un groupe qui n'est pas représenté, si vous voulez. Bon. Et puis, la dernière partie, alors nous avons surtout travaillé, si vous voulez, sur ces quatre catégories de courriers. La dernière qui est aussi importante pour le président, bon, mais, donc la rubrique opinion, c'est effectivement ceux qui formulent des opinions sur la politique, sur la manière dont le président se comporte, qui font des propositions éventuellement de réforme. Bon. Et puis la dernière catégorie, alors, qui est une catégorie aussi importante pour le président, puisque c'est ce qu'on appelle le courrier réservé, c'est le courrier des personnalités. Bon.
Donc, qui comprend à la fois des élus...
Alors, c'est tous les élus. Ça peut être un grand patron qui va lui rappeler un certain nombre de ses engagements en matière économique. Bon, ça peut être également des personnalités du spectacle, etc., des écrivains. Ça peut être toute une série de gens, si vous voulez, donc, qui sont classés dans le courrier réservé et qui, là, vont être traités véritablement... d'une certaine manière, bon, petit soin, c'est plutôt... Alors que les autres, c'est effectivement une masse de courriers. Vous avez dit que c'est entre 1000, à la fin du quinquennat Hollande, beaucoup moins. Mais en vitesse de croisière, on est plutôt aux alentours de 1000, voire en temps de Covid, plutôt 2000, si vous voulez. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à gérer et arriver à écluser.
Parce que l'engagement de ce service, on peut le préciser, c'est qu'ils lisent vraiment tous les courriers qui leur parviennent.
Oui, c'est
des engagements qui...
Alors, ils le lisent de manière différente selon l'état, si vous voulez, de la machinerie qu'ils ont, parce qu'effectivement, donc là aussi, l'un des problèmes du service, ça a été donc de passer, si vous voulez, donc progressivement aux ordinateurs et au digital. Mmh. Le courrier, donc dans la phase initiale, nous on a vu, si vous voulez, c'était une grande salle où vous aviez donc vous aviez un scan pour voir s'il y avait rien, si vous voulez, dans le courrier,
bien entendu,
et donc Et ensuite, donc, le premier tri, c'était donc le personnel, si vous voulez, de premier rang, qui, il y avait des casiers, et donc, ils mettaient dans les casiers, ils sortaient les lettres suicidaires, et ensuite, ils mettaient...
C'est là qu'a eu le classement.
Donc, c'était une première lecture rapide, premier classement, et ensuite, c'était passé au rédacteur, qui faisait une deuxième lecture, donc voilà. Bon, alors, peut-être même que, je crois, sous Mitterrand, le chef de service voulait tout lire. Bon, alors, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tous les cas, il y a au moins, si vous voulez, deux lectures, plus éventuellement pour ceux qui remontent à l'Élysée, puisque vous avez du courrier qui reste là et qui est traité sur place, et puis les courriers qui paraissent justement significatifs, importants, etc., vont partir au cabinet, bon, et vont être lus par des membres du cabinet, voire éventuellement, le staff suprême, c'est éventuellement être lu par le président lui-même, et donc arriver sur le bureau, si vous voulez. Donc vous avez, selon l'importance donnée au courrier, donc plusieurs destinataires et plusieurs lecteurs.
Et comparé au sondage, mais aussi à l'heure d'Internet et donc des réseaux sociaux, qui constituent des nouvelles façons de s'adresser aussi au président, en tout cas de l'interpeller, quelle importance aujourd'hui l'Élysée accorde à cette correspondance, qui comprend aussi des mails, vous l'avez dit, en termes de représentativité en fait, de l'opinion des Français?
Alors c'est vrai que c'est un moyen qui peut être utilisé différemment par les présidents de se sortir de l'Élysée. Bon, un des lieux communs, c'est on est enfermé dans l'Élysée. Bon, effectivement, l'Élysée,
la solitude de la fonction.
Une fois que le président est dedans, la possibilité de s'ouvrir à l'extérieur, c'est quoi? C'est d'avoir ce qu'on dit des capteurs. Hein. Les capteurs, ça peut être éventuellement un élu particulier qui prend des notes pour le président, un élu local notamment, par exemple. Bon, et puis les deux autres manières, bon, c'est donc la possibilité d'aller sur le terrain, c'est donc les visites, et donc Macron en ce moment en use.
Les fameux bains de foule.
Voilà, c'est ça. Et puis bien entendu, c'est les sondages. Hein. Alors, les sondages, bon, Sarkozy, bien que là aussi, il nous ait dit que les sondages c'était n'importe quoi. Et bon, ça a été l'un des premiers trucs qu'il nous a dit, où les sondeurs disent n'importe quoi, ils se trompent, etc., etc. Bon, il en a quand même largement abusé. Bon, tout président, de toute manière, à l'heure actuelle, s'intéresse aux sondages, parce que la presse s'intéresse aux sondages. Il y a une espèce, si vous voulez, bon. En tant que spécialiste de sciences politiques, je dirais attention, vu la manière dont on sait maintenant donc, comment ils sont faits. J'ai fait des cours bon, avec le vieux texte qui est toujours d'actualité, L'opinion publique n'existe pas, de Pierre Bourdieu, 72-73. Bon, c'est encore pire à l'heure actuelle. Bon,
finalement, est-ce que le courrier face à
ça... Le courrier face à ça, c'est pas une si mauvaise plongée, parce que d'une certaine manière, là, il n'y a pas de sollicitation. C'est-à-dire que c'est les gens qui... spontanément, plus ou moins, ou bien dans le cercle familial, tu devrais y aller, mais pourquoi t'arrêtes de gueuler? C'est ce que nous raconte une histoire, justement. Donc, la mère donc, dit, j'en ai marre de ce logement, donc je vais écrire au président de la République. Ses filles se foutent de lui, d'elle, etc., etc. Bon, et puis finalement, la belle histoire, c'est que, donc c'est sur Internet, vous pouvez aller le voir, l'histoire de Dounia. Bon, et donc, finalement, elle a un logement. Bon. Et donc, si vous voulez, par rapport à cette immédiateté de l'opinion publique qui serait saisie par les sondages, bon, on a un grain beaucoup plus difficile à maîtriser parce que, d'une certaine manière, on ne sait pas tellement qu'est-ce qu'ils écrivent, pourquoi ils écrivent. Enfin, ils écrivent plus ou moins spontanément et ils ne sont généralement pas seuls concernés. Enfin, il y a toute une outre éventuellement donc l'intérêt même pour faire une sociologie de l'écriture, disons ordinaire, hein, bon, puisque vous avez des gens qui écrivent un peu de tous les milieux sociaux, c'est aussi une formidable caisse de résonance donc de ce que c'est que les opinions de Français, je dirais pas contrairement justement donc les Français pensent que, hein, comme on dit pour les sondages, c'est de la bêtise, mais à partir de ce matériau particulier, on peut savoir évidemment quelles sont les préoccupations de Français qui ont pris la peine d'écrire au président de la République.
Et donc vous avez mené une enquête sociologique, hein, mais par contre vous précisez que le service de la correspondance présidentielle, lui, ne cherche pas du tout à en tout cas s'appuyer sur des méthodes d'enquête sociologique pour traiter ces courriers qui sont envoyés au président. Mais est-ce que du fait que vous ayez publié ce livre, pour vous, ça manquerait en fait d'une approche plus sociologisante, ce service ?
C'est-à-dire que nous, on a le livre a été remis au moment de sa parution, donc maintenant il y a presque 3 semaines. Entre les mains du chef de service, bon, qui nous a fait un retour, si vous voulez, bon, et donc qui de son point de vue était positif, parce qu'effectivement, donc, je pense qu'il s'est aussi assez largement mis en scène, parce que c'est un service qui est donc un peu un service, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'Élysée, c'est quand même l'Élysée, c'est de l'autre côté de la scène, etc.
Peu,
bon, et puis il avait d'une certaine manière donc envie de montrer ce qu'il avait fait. Puisque je voulais peut-être en parler maintenant, c'est effectivement le changement progressif à partir donc de la fin du quinquennat Hollande, c'est d'utiliser beaucoup plus donc le courrier qu'il n'avait été fait auparavant. Et puis à la fin du quinquennat, au milieu du quinquennat, il y a eu également donc un bureau d'analyse qui a été mis sur pied. Le bureau d'analyse, c'est effectivement comme son nom l'indique, c'est d'analyser, si vous voulez, les courriers. À la fois de faire des notes beaucoup plus conséquentes et de transformer aussi, hein, comment les lettres deviennent des chiffres, si vous voulez. Donc de faire des camemberts, de faire des courbes pour montrer le nombre de réactions à telle et telle question, de faire etc., etc. Donc donc progressivement également de mobiliser ce qu'a fait Hollande, je crois, à partir de 2015. Même de mobiliser les gens qui ont écrit. Lui regrettait de ne pas voir plus de gens. Et donc, il a à ce moment-là donc activé le service. Son chef de service a activé. Il y a eu également un conseiller opinion qui venait beaucoup plus souvent prendre du matériau, justement, passer la scène et prendre du matériau, qui lui faisait des notes, alors qui se mélangeait avec des sondages, etc., etc. Et donc, on a eu progressivement l'idée qui est arrivée au même moment que Macron, enfin la fin de Hollande et le début de Macron, qu'il y avait autre chose à faire que simplement de répondre aux gens de manière assez conventionnelle et qu'on pouvait éventuellement activer
en fait,
ce courrier. Bon, et ça a rencontré justement donc le manque et le désir de Macron, puisque l'un des problèmes de Macron, c'est effectivement qu'il n'a pas de...
il est un peu hors sol. D'expérience en tant qu'élu local, quoi.
Il est un peu hors sol, il a pas... Donc c'était l'idée d'arriver à trouver donc des capteurs qui soient effectivement donc des capteurs beaucoup plus populaires. Bon. Ça s'est accéléré, disons, au début 2020, avant l'arrivée du Covid, avec la nomination d'un nouveau chef de service complètement différent. Alors certes, il est passé par... je crois qu'ils doivent tous passer par la préfectorale, parce que c'est aussi une fonction dans laquelle il faut savoir de bonne connaissance de la carte administrative française. Bon. Et puis également, il avait mis en avant sa spécialisation data. Bon. Et alors, c'est lui qui a commencé à mettre cela en place.
À transformer en statistiques, alors
voilà.
Les fameuses
lettres. Alors là, bon, alors, c'est là où on est un peu frustré, parce que on devait aller voir le fonctionnement, parce que, bon, une fois qu'on a dit data, bon, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, ça peut être des petits bidouillages, comme ça peut être éventuellement des traitements très sophistiqués de bases de données. Alors, qu'est-ce qu'ils... Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est pas des sociologues, non, c'est pas le but, c'est pas faire de la sociologie, c'est d'essayer... d'extraire de ce courrier, si vous voulez, ce qui paraît important du point de vue de la veille de l'opinion. Bon. Ça veut dire, bon, je reprends cette expression parce que j'avais fait des travaux sur le vote, hein. Quand on vote trois fois, on vote pour le vote, on vote pour quelque chose ou contre quelque chose, et puis on est voté parce que, bon, votre vote, ensuite, il est interprété. Quand on écrit, bon, si on écrit, ça veut dire qu'on a un minimum de rapport avec l'institution présidentielle, on écrit pour quelque chose ou contre quelque chose, et puis après, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sert de votre écriture pour en quelque sorte...
Une
interprétation.
Ensuite.
Et alors là, en fait, là justement, le changement, c'est que désormais, on s'intéresse à la fois aux opinions, alors qu'auparavant, on s'intéressait essentiellement aux opinions. Très peu de courriers, si vous les remontez à l'Élysée, sur des plaintes individuelles, ce qui fait que le truc gilet jaune, enfin, les courriers qui pouvaient éventuellement laisser entendre qu'il y avait des problèmes, bon, ne remontaient pas forcément, si vous voulez. Hein, bon. Et désormais, si vous voulez, tout est mis en machine, c'est-à-dire qu'aussi bien les lettres d'insultes, alors je ne sais pas ce qu'ils en font exactement, toutes les lettres d'insultes sont mises en machine, les requêtes sont mises en machine, les opinions sont mises en machine, avec, on ajoute, la presse quotidienne régionale, hein, et puis également donc, Twitter et Facebook. Alors, savoir de quelle manière également tout ça est mouliné, quel est le poids des uns et des autres, vraisemblablement le fait qu'on mette les réseaux sociaux permet de rééquilibrer un peu justement l'échantillon, qui est finalement un échantillon qui est quand même plutôt âgé, c'est-à-dire que vous avez...
Oui, vous le dites dans le livre, hein, ça concerne principalement des retraités finalement.
C'est difficile de dire exactement, on pourra peut-être revenir si ça vous intéresse, mais qu'est-ce qui est écrit? En tous les cas, disons qu'il peut y avoir des enfants qui écrivent, bon. Et puis après, j'ai l'impression que, si vous voulez, entre 15 et 30 ans, bon, non. C'est après, si vous voulez, c'est des problèmes plutôt d'adultes, de gens qui cherchent des emplois, qui ont des ennuis, etc., etc. Et puis aussi pas mal de retraités. Bon, donc là aussi, si vous voulez, donc ça permet peut-être de rééquilibrer tout ça. Bon, alors l'usage qui en est fait, bon, pour revenir à votre question de tout à l'heure, à savoir, bon, est-ce que ce sont des gens qui sont intéressés à la réélection du président, bah oui et non. C'est-à-dire qu'eux, ils font leur travail, mais c'est quand même malgré tout le président qui commande. Et bon, là, le service, sans être, si vous voulez, soupçonné, soupçonnable de mettre en fiche les Français, bon, malgré tout, il y a un matériau très très important pour Macron pour sa réélection. Et donc, le livre commence d'ailleurs par une citation donc, de Macron, c'est les vœux 2020.
Et il cite justement trois de ses correspondants.
Voilà, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Et donc, j'ai mis un mail au directeur du service, puis dites donc, là, il y a du courrier. Il m'a dit oui, bon, parce que tout n'était pas du courrier. Il y a vraiment la fameuse Morissette, la première vaccinée de France. Bon, il n'a pas écrit pour dire je vais me faire vacciner, mais toutes les télévisions en ont parlé. Et récemment, il y a des expériences, si vous voulez, qui ont été reprises. Bon, et là, alors, dans quelle proportion? Parce que le chef de service, moi, malheureusement, on ne peut pas suivre le président, le chef de service, mais il me dit qu'il est de plus en plus écouté donc, du président. Pour orienter ses déplacements.
Et alors, dernière question, puisque le temps est largement dépassé hein, pour notre interview. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est donc au vu du traitement qui est accordé hein, à ces missives que vous avez pu observer, à la fois par les agents hein, du service de la correspondance, mais aussi par l'Élysée, est-ce que vous recommanderiez aux Français de continuer à écrire pour ceux qui le font déjà ou de s'y mettre pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait?
Je crois que écrire, si vous voulez, quand on a des choses sur le cœur, c'est pas plus mal. Bon, écrire à son député, écrire à son maire, écrire...
écrire à son président.
Écrire à son président, bon, effectivement. Alors oui, écrivez. Écrivez, bon, aussi bien écrivez si vous avez des requêtes, écrivez si vous avez des opinions à faire valoir. Bon, simplement, bon, on vous répondra plus ou moins. Et donc là aussi, ne croyez pas que c'est un moyen efficace. Et alors, si vous avez une cause collective à défendre aussi, alors ne la défendez pas collectivement, défendez-la individuellement. C'est-à-dire qu'une lettre personnalisée, bon, va faire beaucoup plus d'effet qu'une pétition, si vous voulez. Donc il y a effectivement des stratégies d'écriture. Alors, si vous voulez faire sauter le standard, que tout Dieu le fit écrive éventuellement 10 fois par an, et à ce moment-là, avec 3000 lettres, je pense que là,
vous serez entendu.
Voilà.
Michel Auferlet, je vous remercie.
Et merci à vous de m'avoir accueilli.
Vous êtes venu nous voir à l'occasion donc, de la parution de votre ouvrage « Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée » qui est paru aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Julien Fretel. C'est un livre, chers auditeurs, que vous pouvez vous-même vous procurer sans plus attendre, que ce soit à la librairie Sou et Gamba d'Adiolfi ou alors dans toute autre librairie indépendante proche de chez vous. C'est en tout cas un achat que l'on vous recommande à Radiola.
Radiola.media